c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de Mexique, de Chili, de Cuba, du Brésil et, si le temps nous permet, aussi un peu de la Colombie. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de Mexique, et un sujet très intéressant et très compliqué, la vente d'armes des États-Unis vers le Mexique.
Oui, les armes états-uniennes dans le viseur mexicain. La justice des États-Unis a reconnu que le Mexique pouvait poursuivre les entreprises nord-américaines d'armes à feu. Depuis 3 ans, le Mexique affronte devant les tribunaux nord-américains l'industrie d'armement aux États-Unis. 2 récentes victoires ont été célébrées dans le Mexique. Pour la première fois, la justice nord-américaine a reconnu qu'un État pouvait poursuivre en justice ce secteur pour son rôle dans le trafic d'armes à feu et demander des réparations. L'enjeu est des plus sensibles dans l'opinion publique mexicaine alors que l'armement nord-américain a une large part de responsabilité dans le narcotrafic, le principal fléau du pays. Mexico estime que près d'un demi-million d'armes des États-Unis entrent chaque année illégalement sur son territoire. 6 assassinats sur 10 sont perpétrés par des armes à feu dans la quasi-totalité du pays frontalier, les USA. L'intérêt pour cette bataille juridique, qui est engagée depuis 2021, est aussi notable aux États-Unis. Les victoires du Mexique devant les cours fédérales de Boston et de Tucson, perçues comme historiques, sont applaudies par une majorité d'États-Uniens qui souhaitent une régulation de cette industrie impliquée tant dans les massacres de civils que dans la crise du fentanyl. Je cite... Les États-Unis savent aujourd'hui qu'ils arment les cartels qui inondent les pays d'une drogue des plus létales, résume Jonathan Lowy, l'avocat nord-américain qui représente le Mexique dans ce litige et affronte cette industrie dans les tribunaux depuis 27 ans.
Para bailar la bamba, oui, rythme mexicain. Nous allons continuer à parler du Mexique.
C'est suite du Mexique avec les États-Unis, l'affrontement devant les tribunaux. Le ministre des Affaires étrangères mexicain a mis en place une stratégie juridique et politique pour obtenir, in fine, que l'industrie d'armement des États-Unis change ses pratiques. Le Mexique argue que l'industrie nord-américaine a mis en place des stratégies délibérées de marketing attrayantes pour les groupes criminels, en particulier mexicains. On cite des armes de conception militaire pouvant facilement être modifiées pour le tir automatique et dont le design imite les figures de la narcoculture et les symboles nationaux mexicains, à commencer par son drapeau ou sa Vierge de Guadalupe. L'entreprise Colt, visée par la plainte mexicaine aux côtés de 7 autres fabricants, produit par exemple 3 modèles, El Jefe, El Grito et Emiliano Zapata, de son revolver Colt 38 avec leur crosse gravée de ses effigies. Alors, je cite, « La cour d'appel de Boston vient de reconnaître que ces pratiques sont illicites et que l'industrie n'a pas une immunité absolue contre le trafic illégal d'armes vers le Mexique », explique Alejandro Celorio, conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. La victoire en appel à Boston représente en effet une première brèche dans ce qui est dénommé comme la forteresse de l'industrie d'armement nord-américaine. La loi sur la protection du commerce légal des armes à feu. Je cite « Je doute que l'industrie des armes change d'elle-même sans l'action de la justice. Peut-être que les Mexicains vont obtenir ce que nous n'avons jamais gagné », indique l'avocat Jonathan Lowy.
Toujours au rythme mexicain, nous allons vous parler de le Mexique, mais le Mexique en France. Expo au Quai Branly.
Oui, le musée parisien du Quai Branly revient sur la mythologie et la cosmovision de la civilisation des Mexicas, longtemps appelée à tort Aztèque. C'est bien de l'Empire Mexica que se sont emparés en 1521 les Espagnols, emmenés par Hernán Cortés, lequel donnera d'ailleurs le nom Mexico à la ville qui fondera sur le site de l'ancienne capitale Tenochtitlan. Ce nom de Mexicas figure bien dans les textes et codex de l'époque, mais par une facétie de l'histoire, un renversement s'est produit au XIXe siècle lorsque l'explorateur et naturaliste Alexander von Humboldt a introduit le terme aztèque en référence à la ville mystique d'Aztlan, dont ce peuple était censé être originaire. Il faut signaler le risque que prend le musée du Quai Branly en choisissant un mot inconnu comme titre de sa nouvelle exposition en lieu et place du célèbre et évocateur aztèque. On parle donc des Mexicas au Quai Branly pour un zoom fascinant et très documenté sur ce que les spécialistes appellent sa cosmovision, c'est-à-dire la représentation que la civilisation mexica se faisait du monde et des forces qui l'animent par le biais de sa mythologie, son panthéon et ses pratiques religieuses. Le tout s'appuie sur des centaines d'objets dont les trois quarts sortent pour la première fois du Mexique. C'est la première fois qu'un musée accepte de faire une grande exposition sur cette civilisation avec le changement du nom, souligne Steve Bourget, responsable des collections Amérique au musée. L'exposition sera exposé jusqu'au 8 septembre.
Thank you. Toujours rythme mexicain. Nous allons vous parler aussi d'un débat de la prochaine élection présidentielle en juin, un débat entre deux femmes mexicaines.
Oui, deux femmes en vedette au débat télévisé pour la succession du président Andrés Manuel López Obrador, appelé AMLO. Le débat début avril avait une nouvelle allure avec deux candidates en vedette. D'un côté, Claudia Sheinbaum, l'ancienne maire de Mexico, 2018-2023, grande favorite des sondages qui se veut l'héritière du président de gauche sortant AMLO. De l'autre, la sénatrice et chef d'entreprise Xochitl Galvez, représentante de l'opposition de droite. Ce débat télévisé a surtout donné lieu à des attaques d'ordre personnel en reléguant les propositions au second plan. Accusant plus de 20 points de retard dans les sondages, la candidate d'opposition a choisi l'offensive pour se maintenir dans le jeu. Madame Sheinbaum est cependant parvenue à présenter quelques points de son programme, dont la philosophie est la continuité de la transformation menée par le président. Elle a promis d'augmenter les programmes sociaux et de construire 1 million de logements. Pour se différencier des partis conservateurs qu'elle représente et dont l'impopularité constitue son principal fardeau, Xochitl Galvez s'est courageusement prononcée en faveur de l'avortement et pour les droits des personnes LGBT. Elle a également promis de continuer les programmes sociaux du gouvernement. Le débat ne semble pas avoir modifié l'équilibre des forces qui laisse présager une large victoire de Claudia Sheinbaum.
Voilà, donc c'est la page consacrée au Mexique ce matin sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons passer à une extrémité, donc on va parler de la Patagonie chilienne, n'est-ce pas Béatrix?
Oui, la Patagonie chilienne est mal connue, au contraire de la Patagonie argentine. Coincée entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, la Patagonie chilienne séduit les amateurs de grands espaces, de solitude et de paysages grandioses. Parfois, inhospitalière et inquiétante, elle est aussi envoûtante que devaient l'être les terres vierges. Une des façons de la découvrir est de naviguer dans cette mer intérieure qui s'étend de Puerto Montt, à 1000 km au sud de Santiago du Chili, la capitale, jusqu'au Cap Horn. C'est le royaume du vent, du froid et de la pluie, avertit Luis Cochifas, le capitaine du bateau Scorpios, en route pour une croisière de 800 milles à travers les archipels de Chiloé, Chonos et Aysén. Un labyrinthe de lacs et de canaux aux eaux limpides et calmes. La traversée se fait entre îlots sauvages, fjords abrupts, volcans de neige éternels et sombres forêts. Le crachin de ce bout du monde découvert en 1520 par Fernand de Magellan se révèle vivifiant. Les éclaircies sont nombreuses. Le ciel est alors d'un bleu cristallin. La mer prend une couleur turquoise, digne des Caraïbes, et les couchers de soleil sur la cordillère des Andes sont époustouflants. Les compagnons de voyage sont nombreux. Phoques, dauphins, baleines bleues, pélicans, cormorans et albatros. Retour à Puerto Montt. Puerto Montt fut au XIXe siècle terre d'asile. Une aventurière bretonne, originaire de Rieck-sur-Belon, dans le Finistère, Laurence de Solmignac, implanta l'ostréiculture au Chili et fit fortune. Elle avait retrouvé le crachin de son pays natal.
Et nous allons entendre une musique typique des îles de Chiloé.
Corra la vida, corre más antes, corra
Voilà, danse, musique folklorique typique du Chili dans le sud. Mais nous allons parler maintenant de l'expérience des Français sportifs, en fait, une expérience sportive. Pourquoi ?
Pour la boxe entre le Cuba et la France. L'équipe de France masculine de boxe s'est rendue pour un stage sur l'île caribéenne. L'occasion de se mesurer au meilleur boxeur amateur. Une belle soirée de boxe. Alberto Puig arbore un sourire modeste sur le perron de l'hôtel Brisas del Caraïbe des Varaderos, l'une des stations les plus prisées de Cuba. La veille, au soir de la soirée, début avril, Alberto Puig, président de la Fédération de boxe cubaine, n'a pas boudé son plaisir. 8 combats entre une partie de la sélection cubaine et les boxeurs de l'équipe de France, 8 victoires. Toutes sur décision unanime des juges, exclusivement cubaines, de ce tournoi un peu particulier. Ce score sans appel n'aura aucune incidence sur les chances de qualification des uns ou des autres pour les Jeux olympiques, la rencontre n'étant pas inscrite au calendrier des compétitions internationales. Il s'agissait avant tout d'évaluer l'état de forme des athlètes à l'issue de 2 semaines de stage et pour Cuba de célébrer un sport très populaire et très généreux en médailles. Un contexte idéal pour parfaire la préparation olympique des Bleus et avancer vers l'objectif intermédiaire que représentent les championnats d'Europe du 15 au 29 avril à Belgrade. Dans la salle de l'hôtel Brisas del Caraïbe, à Cuba, aménagée en arène de boxe, les familles des sportifs côtoient des clients de l'hôtel et les représentants des autorités cubaines. L'ambiance y est digne d'une finale olympique.
Soy un hombre cubano, contento, ouais. Musique de Cuba, ça donne envie de danser. Mais nous allons parler d'un autre grand pays où il y a un président qui a quelques difficultés, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, le président Lula da Silva peine à désendetter la population. Lancé en juillet 2023, le programme Desenrola, visant à renégocier les impayés de plus de 70 millions de personnes, n'a pas atteint son but. 40% de la population brésilienne se trouve dans l'incapacité de payer ses dettes, selon les données du service de protection du crédit. Au Brésil, les faibles revenus d'une grande partie des citoyens ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins, les contraignant à recourir au crédit. L'augmentation du chômage a grévé le pouvoir d'achat, faisant grimper le nombre de familles endettées de 63% en 2019 à 76% en 2023. Craignant que le surendettement provoque un ralentissement de la consommation, le président Lula a lancé le programme Desenrola, c'est-à-dire dérouler, en 2023, en partenariat avec 600 entreprises, parmi lesquelles se trouvent les principales banques du pays. Il a permis aux personnes ayant des revenus jusqu'à 3600 euros de renégocier le montant de leur dette auprès de leur banque. Mais Desenrola reste loin d'atteindre ses objectifs. Même si Desenrola parvenait à atteindre l'ensemble de sa cible, certains experts doutent de son efficacité sur le long terme.
C'est une belle chanson, Donne-moi la main, camarade. Voilà. Et nous allons parler de la Colombie, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, capitale de Bogota contraint à rationner l'eau potable. Bogota fait face à un déficit de pluie accentué par le phénomène El Niño. Perchée dans la cordillère des Andes, à 2600 mètres d'altitude, la capitale est à l'ordinaire une ville pluvieuse. Mais depuis des mois, son ciel est étonnamment bleu. Les averses qui de temps en temps détrempent ses rues ne suffisent pas à remplir les barrages dans la montagne. Depuis le 11 avril, l'eau est donc rationnée dans Bogota. La capitale a été divisée en 9 zones. L'eau sera coupée pendant 24 heures dans chacune d'entre elles, une fois tous les 10 jours. Bogota et les municipalités environnantes sont alimentées par 8 barrages qui se trouvent à plus de 3500 mètres d'altitude. Certains visiteurs étrangers s'étonnent de la transparence du liquide descendant du tout droit des Paramos, les terres hautes des Andes, entre les glaciers et la forêt tropicale. Selon le réseau Global Water, l'Amérique latine abrite un tiers des ressources hydriques mondiales, et la Colombie figure en 2e place après le Brésil. Plus de 90% de la consommation d'eau dans Bogota est à usage résidentiel. Le maire de la ville a appelé ses concitoyens à s'unir pour économiser l'eau et à changer leurs habitudes, comme la sacro-sainte douche matinale. Le maire recommande aux habitants de limiter l'usage de la machine à laver, le linge, et de vérifier l'étanchéité des joints et tuyaux. Le débat sur la responsabilité des pouvoirs publics est engagé.
Et on dit que le maire aussi a conseillé de prendre les douches pour les couples, qu'ils prennent la douche ensemble. Notre émission touche à sa fin, l'émission L'Autre Amérique, évidemment, sur les ondes de Radio Libre à Périgord. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons un ex-ambassadeur au micro. Nous allons faire un entretien avec lui au sujet des semaines de l'Amérique latine en France. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos sur ce continent. Et merci a Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.